a débouché sur l'idée qu'on pouvait peut-être, autour du continent antarctique et de toute cette région, créer une gouvernance un petit peu particulière, favorisant l'accès des chercheurs et limitant les autres types d'activités, en particulier les activités militaires. C'était trouver, en quelque sorte, un endroit sur la planète où on pouvait enfin souffler et mettre de côté toutes les prétentions territoriales et tous les caractères un petit peu belliqueux entre les deux grands blocs de l'époque.
Alors, la principale avancée de ce traité, c'est finalement de contrôler tout un continent, de le contrôler de manière pacifique, en tout cas entre les principales puissances de l'époque.
Ce continent voyait et ne voit toujours en fait que peu de revendications territoriales. Le traité sur l'Antarctique, son premier point a été de geler toutes ses prétentions territoriales. Et le deuxième point important, c'est effectivement la démilitarisation complète de ce continent, donc absence d'activité militaire, absence d'essais nucléaires, pour faire de ce territoire eh bien, un espace réservé à la paix et à la science, comme le dit le traité lui-même.
Est-ce qu'il est aujourd'hui dépassé, ce traité ?
Ce traité n'est pas dépassé, il a besoin de s'adapter. C'est un exemple unique de gouvernance au niveau de la planète où, de manière, on va dire, pratiquement désintéressée, un certain nombre de pays se mettent autour d'une table pour gérer le mieux possible un territoire et pour permettre l'accès aux scientifiques, donc à la connaissance scientifique, et puis également la protection d'un environnement tout à fait particulier.
Vous parlez d'adaptation, donc notamment avec le protocole de Madrid. Est-ce qu'il y a d'autres adaptations nécessaires ?
Le protocole de Madrid est né d'un refus qui a été émis par un certain nombre de pays, dont la France et la Nouvelle-Zélande et l'Australie, un refus d'exploitation des ressources naturelles en Antarctique. Donc il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, il est impossible d'exploiter toute ressource minérale, pétrolière, gazière, qu'il pourrait y avoir autour du continent antarctique, et ça au sud, en fait, du 60e parallèle sud. Mais le point qui n'avait pas du tout été envisagé à l'époque où ces textes ont été rédigés, c'est l'explosion d'une activité, on va dire presque d'une industrie, qui est l'industrie du tourisme sur le continent antarctique. Aujourd'hui, on estime qu'on a entre 40 et 50 000 touristes qui visitent l'Antarctique. Et là, il y a un véritable enjeu en termes de protection de l'environnement, mais aussi de sécurité des personnes. Ça veut dire qu'il y a bien là un enjeu important pour les partenaires autour de la table du traité sur l'Antarctique.
Comment se passe la coopération ?
Nous, Institut Polaire français, on soutient à peu près une trentaine de programmes scientifiques en Antarctique, aussi bien sur la base du Mont d'Urville, sur la base côtière, donc en Terre d'Adélie, ou sur la base franco-italienne de Concordia, à l'intérieur du continent. Et je peux vous dire qu'aucun de ces programmes n'est purement franco-français. Tous ces programmes se réalisent en collaboration. Aussi bien les gouvernements français qu'italiens ont eux aussi, depuis de nombreuses années, décidé d'apporter un soutien significatif à ce type de recherche. Mais l'ensemble, une fois encore, l'ensemble de ces recherches se traduit par des collaborations internationales, vraiment à tous les niveaux, aussi bien entre les scientifiques eux-mêmes, mais qu'entre les agences polaires gouvernementales.